Je vous invite à prendre vos Bibles et trouver la lettre de Paul écrite aux Philippiens. Et nous parlons ici, pour la sixième fois, je crois, sur ce thème de la paix que Dieu veut qu'on connaisse. Pas seulement la paix avec Dieu grâce à Jésus-Christ, mais connaître aussi la paix de Dieu, comme dit le verset 7, une paix qui surpasse toute intelligence et une paix qui garde nos cœurs et garde même nos pensées en Jésus-Christ. Et même plus que cela, le texte que nous avons pour aujourd'hui, le verset 9, connaître le Dieu de paix lui-même. Et dans ce texte, nous avons vu que pour connaître cette paix qui nous protège en 2024, cette année, Dieu désire, il nous appelle même, à chercher cette paix, à activement impliquer nos recherches, nos vies, dans la recherche de cette paix. Et la première chose au verset 6, c'est par des quoi? Par des prières. Quand nous sommes tentés de nous inquiéter, nous devons rejeter l'inquiétude et nous donner à la prière de Dieu. Et puis nous avons vu au verset 8, pas seulement la prière, mais c'est une question de nos pensées, nos pensées. Devons nous donner, après avoir prié, nous devons nous parler, ok, qu'est-ce que je médite? Sur quoi est-ce que je médite? Est-ce que c'est vrai, honorable, juste, pur, aimable? Est-ce que cela mérite l'approbation? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que je donne mon temps, mes pensées, mes yeux, mes oreilles à ces choses-là? Et puis le verset 9, pour aujourd'hui maintenant, « Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Pour que nos cœurs et nos pensées soient gardés par la paix de Dieu, nous avons des prières qui protègent la paix, nous avons des pensée qui protège la paix. Et aujourd'hui, il nous appelle à pratiquer ces choses, des pratiques qui protègent la paix. Il dit verset 9, ce que vous avez appris, vous voyez ça? Ou bien ces choses que vous avez apprises aussi. Mettez-les en pratique. Et ce verset se divise, je pense, naturellement en trois parties. Et donc, nous allons utiliser trois mots, un mot pour décrire chaque partie. Le mot transmission, puis application et bénédiction. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, là, ça parle d'une transmission. Après, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est l'application? Pratiquez-le. Et puis la bénédiction, c'est quoi? Le Dieu de paix sera avec vous. Donc premièrement, considérons cette transmission. C'est un acte de transmettre, de faire passer quelque chose d'une personne à une autre. Et il y a, si vous regardez bien dans vos Bibles, il y a quatre verbes dans ce verset qui décrivent ce processus de transmission d'une personne à un autre. Et ces verbes expriment ce point de connexion, ce point de lien, d'une part entre le transmetteur, c'est-à-dire la personne qui transmet, et d'autre part, le destinataire. Il y a deux personnes ici dans ce verset. Regardez-le encore. Ce que vous avez appris, premier verbe, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi, et quatrièmement, ce que vous avez vu en moi. Ces quatre verbes montrent comment les informations sont transmises, comment la vérité est transmise d'une génération à une autre, d'une personne à une autre, d'une famille à une autre, d'un individu à un autre. Ils indiquent comment le transmetteur communique au destinataire. Donc, si le destinataire a appris, ça c'est le premier mot, appris, c'est que quelqu'un d'autre lui a quoi? Enseigné, hein? Si le destinataire a reçu, c'est que quelqu'un d'autre lui a donné. Si le destinataire a entendu, c'est que quelqu'un lui a parlé. Et si le destinataire a vu, c'est que quelqu'un lui a montré ces choses. Alors, c'est un peu comme lors d'un passage d'un témoin, vous savez, lors ces courses relais. La transmission de la vérité exige la participation des deux acteurs. Celui qui va donner le témoin et puis l'autre qui va prendre le témoin de sa main. S'il y a un ou l'autre qui chute ou qui tombe, la course est gâchée. La transmission exige donc l'intégrité de la part de celui qui transmet, mais aussi la volonté de celui qui reçoit. Pour transmettre efficacement, il faut que le transmetteur soit intègre. Je crois que c'est ce qui est souligné dans ces verbes. Et il faut que le destinataire soit intentionnel. Donc notez ces deux choses. D'abord, une transmission efficace de vérité concernant Dieu exige l'intégrité du transmetteur. Et on parle d'une personne là. Voici le ministère qu'avait l'apôtre au sein de toutes ses églises. Il enseignait, il donnait, il parlait et il montrait. Et la Bible nous appelle tous à faire des disciples. Mais nous devons pouvoir dire non seulement à ses disciples, à nos enfants, à notre femme, notre mari, nos amis, on doit pouvoir leur dire « Fais ce que tu as appris de moi ». Fais ce que tu as reçu de moi. Fais ce que tu as entendu de moi. Mais on doit pouvoir aussi dire quoi? Fais ce que tu as vu en moi. C'est souvent là où il y a le problème. Matthieu 23, Jésus parle des scribes et des pharisiens. Il dit, bon, ils ont une certaine autorité, ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais Jésus doit dire, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Il y a un problème, car ils disent et ne font pas. Alors je pense à ce verset, j'imagine le Seigneur Jésus en train de discuter avec un de mes enfants, en privé. Est-ce que Jésus devrait dire cela à mon enfant? Écoute, fais ce qu'il te dit, mais n'agis pas comme lui il fait. En Romains 2, ces juifs qui se vantaient, ils se flattaient, vous voyez, d'être le conducteur des aveugles. Hein, donc ceux qui enseignaient, ils connaissaient la vérité. Ils étaient la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Ils se considéraient comme le docteur ou l'enseignant des insensés, le maître des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, hein. La loi, je parle de la loi de Dieu. Donc, vous savez, la loi de Dieu, nous, on est bien, on est des enseignants, des docteurs, les autres sont des ignorants, des insensés, des aveugles. Ok. Mais après, Dieu leur dit, toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Ah, c'est grave. On a toujours ce problème, hein, dans le domaine politique. Ceux qui font les lois sont parfois les derniers à se soumettre à la loi. Et dis-toi qui fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Donc il dit ici, pour revenir à notre texte, ce que tu as appris, ou bien ce que Paul est peut-être en train de dire là au début du verset 9, c'est que les choses que je viens de mentionner au verset 8, que vous avez aussi, ces choses, vous les avez aussi apprises et reçues de moi. C'est peut-être même le lien qu'il est en train de faire. Donc regardez le verset 8 encore. Quand il parle de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux, digne de louange, hein, il parle, il dit, voilà, ces choses, vous les avez aussi reçues de moi. Et même vues en moi. Il parle des choses qui venaient de sa propre vie. Donc je crois qu'il y a, on ne va pas passer plus de temps, mais c'est bien de souligner le fait que si nous donnons aux autres, nous donnons pas seulement avec la bouche, mais nous donnons aussi avec l'exemple. Et ils vont pas seulement nous écouter, ils vont aussi nous regarder. Et Paul pouvait dire, regardez-moi. Mais prenons maintenant de l'autre côté. Celui qui reçoit. Parce que ça, c'est nous tous, hein. On reçoit de Dieu. Et donc, on reçoit de cette épître. Et on reçoit donc de cet apôtre. C'est lui qui écrit ces choses pour nous, même ici à Sarcelles aujourd'hui. Une transmission efficace exige l'intentionnalité du destinataire. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrivera par osmose ou par accident. Il faut être déterminé à le faire. Vous avez appris. Vous avez reçu, entendu et vu. Notez d'abord, vous avez appris. Ce même mot est utilisé par Jésus en Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et, c'est ce mot, recevez mes instructions. Ils ont reçu ces instructions. Et puis il dit, vous avez reçu. Encore un mot très fort. La première fois que c'est utilisé dans le Nouveau Testament, ce mot recevoir, c'est en Matthieu 1, 20, quand Joseph pensait par rapport à sa femme, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Prendre avec toi Marie, ta femme, c'est ce même verbe, recevoir. Et Paul dit des Corinthiens, en Corinthiens 15, qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Et Paul dit à ces Philippiens ici, c'est ce que vous avez déjà reçu en vous-même. Parce que la parole peut être annoncée sans être reçue. Vous connaissez la parabole de Jésus des quatre terrains. Et parfois la semence, elle tombe sur le chemin. Et là, elle est même pas reçue. Les oiseaux viennent, le prennent. La personne, bah, ils ont entendu, ils étaient peut-être au culte. Mais vraiment, si c'est même passé dans une oreille, c'est parti par l'autre. Ça n'a pas été reçu dans le cœur. Hébreux 4, 2 dit, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Mais pour l'église des Philippiens, la réponse à la parole de Dieu était tout autre. Paul peut leur dire, vous avez reçu ces choses. Nous aussi, nous devons faire exprès, chaque fois que nous entendons, nous lisons la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu. Jean, en parlant de la parole vivante, il a dit en Jean 1, 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point, c'est ce même mot encore, ils ne l'ont point reçu. Les Philippiens l'ont reçu. Avez-vous reçu les paroles de Jésus? Le Saint-Esprit rendra ce témoignage des chrétiens à Corinthe, en Galatie, Galates 1-9, à Philippe, ici en Philippiens 4-9, aux Colossiens, Colossiens 2-6, dans toutes ces églises. Le témoignage est que ces personnes ont reçu la parole de Dieu. C'est la marque d'un croyant. Quand Dieu parle, il reçoit. Et puis il dit, dans le même verset, vous avez aussi, quel est le troisième verbe? Vous avez entendu de moi. Jean 9, 27, Jésus parle, il dit, je vous l'ai déjà dit, et vous ne l'avez pas écouté. Pardon, ça c'est pas Jésus qui parle, c'est l'homme aveugle qui parle. Et il a dit, je vous ai déjà partagé mon témoignage et vous ne voulez pas l'écouter. Eux, ils voulaient écouter, ils voulaient entendre la parole de Dieu. Là aussi, c'est une marque de ceux qui connaissent Dieu. Ils veulent entendre la parole de Dieu. Il y a une soif pour lire la parole de Dieu et entendre la prédication de la parole de Dieu. Et puis, il dit à la fin, vous avez aussi vu. Vu. Alors, est-ce que vous pouvez reculer d'un chapitre en Philippiens et trouver Philippiens 3 et verset 17. Que dit Paul dans ce verset à ses Philippiens? Soyez tous mes, quoi? Mes imitateurs. Et il leur dit quelque chose de plus. En plus de cela, portez les regards. Vous voyez, vous avez vu parce que vous avez porté les regards. C'était quelque chose d'exprès sur d'autres qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, ils ont porté les regards sur Paul, ils doivent imiter Paul, et ils doivent aussi porter les regards sur d'autres qui imitent Paul. Alors, je vous pose la question, avez-vous vraiment essayé d'en savoir plus sur l'apôtre Paul? Est-ce que ça, c'est un intérêt pour vous? Qui vraiment est l'apôtre Paul? Comment est-ce qu'il pensait? Comment est-ce qu'il agissait? Qu'est-ce qu'il faisait? Quelles étaient ses priorités? La plupart des gens connaissent mieux les stars du rock et du football, que les hommes que Dieu nous propose d'imiter. Il y a une raison pour laquelle nous devons même lire les biographies des saints avant nous qui ont servi le Seigneur, qui ont donné leur vie à Christ. Nous devons porter les regards sur ces personnes qui marchent. Nous aurons toujours les stars, nos jeunes auront toujours les stars, les gens qui veulent imiter. Alors choisissons bien ces personnes à imiter. Et l'apôtre Paul est le seul dans la Bible à encourager les autres à être ses imitateurs. Il faut savoir qu'il le fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est Dieu qui le pousse à le dire. Et donc nous devons obéir, nous devons prendre Paul comme modèle. Jésus, bien sûr, est le modèle parfait, n'est-ce pas? Il est le modèle qui est là, il est loin devant nous. Mais Dieu nous a aussi donné un modèle qui est un peu plus proche de nous. Lui, il a péché. Lui, il a été même persécuteur de l'Église. Et donc, si Jésus est loin devant, il y a Paul qui est quand même dans la même direction. Donc, en voyant Paul, nous pouvons même voir Jésus qui est même devant lui. Et Jésus désire, Dieu désire, la Bible nous appelle même à regarder Paul et à imiter Paul. Ce qui concerne vos modèles, le mot grec pour imitateur, c'est le mot mimeomai. Hein, vous connaissez, on a des mots comme mimé, ça vient de ce mot. Paul exhorte trois fois à imiter, à nous imiter, il dit. On est aux Thessaloniciens, un Thessalonicien, deux Thessaloniciens, deux fois. Deux fois, il dit de m'imiter en parlant de lui-même, en 1 Corinthiens 4 et 1 Corinthiens verset chapitre 11. Nous avons aussi l'auteur de la lettre aux Hébreux qui parle d'imiter ceux qui ont des vies caractérisées par la foi. Et ça semble suggérer que l'imitation est quelque chose de naturel. Même un petit enfant, il va imiter ses parents ou ses frères et ses sœurs. Il est crucial de faire attention aux personnes qui sont là devant nous que nous allons imiter. Nous devons choisir, nous devons porter nos regards sur certaines personnes en particulier. Donc, qui sont vos modèles? Jeunes chrétiens en particulier doivent avoir un désir, même un penchant, de suivre l'exemple que leur donnent les leaders spirituels. Ça, c'est la transmission. Elle se passe quand une vie est en contact avec une autre vie. Ça ne se passe pas sur Internet, ça ne se passe pas à distance, c'est vraiment une vie sur une autre vie. Et Jésus avec ses disciples, on l'a vu, il les a pris avec lui pour qu'ils soient avec lui mardi. Et après, il les envoya pour prêcher. Il voulait ce contact. Et l'Église a été conçue même pour que nous ayons un contact les uns avec les autres. C'est pour ça, c'est tellement important de venir, si Dieu vous permet, même à la réunion de prière. Pourquoi? Il faut ce contact entre nous. Imaginez, on avait une église, on se dit, on se voit une fois par an. Est-ce que ce serait vraiment un corps qui fonctionne ensemble? Non, le contact est essentiel pour que la transmission de la vérité. Et ça veut dire aussi que vous, tout seul avec votre Bible, n'est pas suffisant. Il faut la Bible, bien sûr. La Bible, avant tout, attention, je ne dis pas, on élève une personne au-dessus de la Bible, pas du tout. Mais la Bible, c'est la Bible elle-même qui nous apprend qu'il faut vie sur vie pour que cette transmission soit faite. Et vous devez vous-même vous investir dans la vie des autres. On ne peut pas rester loin des autres. Alors regardez ce deuxième mot. Il dit, ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi. Tout ça, c'est la transmission. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pratiquez-le. Ça, c'est l'application. Pratiquez-le. Alors, je pourrais garder votre place et trouver Jacques chapitre 1. C'est plus loin dans vos Bibles, vers la fin. Jacques chapitre 1, à partir du verset 21, il y a un très, très grand danger. Parce que vous pouvez apprendre, vous pouvez recevoir, vous pouvez entendre, vous pouvez voir, et puis... Si le train s'arrête là, c'est un danger. Donc verset 22 dit, Jacques 1, 22, « Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à quoi ? À l'écouter, à l'entendre, à le voir. » Parce que si vous faites ça, vous quoi? Quel est le monde? Quel danger ici? Il dit, vous trompez vous-même. Vous allez vous tromper vous-même. Si vous écoutez, vous recevez, vous regardez, mais vous ne pratiquez pas. Il n'y a pas d'application. Vous ne faites pas l'application. Vous êtes, verset 23, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais le contraste ici, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Donc oui, il faut regarder, oui, il faut écouter, oui, il faut étudier. Mais il faut aussi quoi? Persévérer là-dedans. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, sera heureux dans son activité. C'est pas tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être trempé? C'est être convaincu que quelque chose est d'une certaine manière alors qu'elle ne l'est pas. Hein. C'est être convaincu d'avoir raison lorsqu'on a tort. C'est se sentir en sécurité alors qu'on est en danger. C'est avoir l'impression qu'on progresse quand on va en fait dans l'autre sens. Et le danger avec d'être trompé comme ça, c'est que on ne le sait pas. Parce que le moment où on le sait, on n'est plus trompé. Vous voyez? C'est pas juste qu'il y a une erreur. Ah, j'ai une erreur, je sais que j'ai une erreur. C'est que je suis dans l'erreur et je pense que je suis dans la vérité. Je suis dans le danger et je pense que je suis en sécurité. Les choses vont mal avec Dieu et je pense que tout est bien avec Dieu. Ça, c'est le danger d'être trompé. Et ça arrive, ça nous arrive même, il dit. Si vous écoutez et vous ne pratiquez pas les choses. Écouter sans agir, c'est se tromper soi-même. Et dans n'importe quel domaine, hein, Dieu peut nous mettre face à quelque chose, il nous met une décision à prendre, quelque chose à croire, et on peut être trompé dans plein de domaines si dans ce domaine-là, on ne se soumet pas à Dieu. Jésus met en garde contre cela dans l'histoire des deux maisons. Hein, vous les jeunes, vous connaissez cette histoire, deux maisons qui sont construites. Jésus dit, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Que fait de cet homme un homme insensé? Est-ce que c'est qu'il n'entend pas les paroles? Non, il les entend. Mais il ne les met pas, quoi, en pratique. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, Jésus dit, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. J'espère que vous avez lu le voyage du pèlerin. Sinon, il faut le faire. Mais il y a chrétiens et fidèles, ils marchent ensemble et ils rencontrent un homme. C'est le personnage que moi, je trouve le plus amusant dans tout le livre. Il s'appelle Beau Parleur. Beau Parleur. Et comme vous pouvez imaginer, cet homme, il aime parler de tout. Et il a une connaissance précise sur la doctrine chrétienne et sur la Bible. Et fidèle est impressionné. Et il dit, waouh, de quoi pouvons-nous parler? Et Beau Parleur lui dit, et je cite, ce qui vous plaira. Je puis vous parler de choses célestes ou de choses terrestres, morales ou évangéliques, sacrées ou profanes, des choses passées ou des choses à venir, de celles qui sont essentielles ou de celles qui sont secondaires, en un mot de tout ce qui peut vous être utile ou nécessaire. Voilà, il est prêt à parler de tout. Mais dans la conversation, on commence à réaliser que Beau Parleur sait bien parler, mais ne vit pas ce qu'il dit. Et donc, fidèle commence à insister un peu sur le fait que nos actions, notre vie doit être en correspondance avec nos paroles. Et à un moment, fidèle lui répond ceci. Il dit, car il y a une connaissance qui est stérile, celle de celui qui connaît la volonté de son maître et ne la fait pas. Un homme pourrait être ainsi instruit, aussi instruit que les anges, et cependant n'être pas chrétien. La connaissance plaît aux hommes vains, mais l'obéissance plaît à Dieu. C'est fort, hein? Il dit non que le cœur puisse être bon sans la connaissance. Ok, c'est ça, on l'admet, hein? Mais il y a une connaissance qui n'est qu'une spéculation de l'intelligence, tandis que la vraie connaissance s'accompagne de foi et d'amour et apprend à l'homme à faire la volonté de Dieu. Un chrétien fidèle la désire et la demande. Et ici, le psaume 119, verset 34, le psalmiste donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Voilà pourquoi. Donne-moi l'intelligence pour que j'observe ta loi de tout mon cœur. Ça, c'est la marque d'un vrai chrétien. Pas la connaissance pour se vanter. Même, il va dire aux Corinthiens que la connaissance enfle dans ce sens. En Luc 11, pour revenir à Jésus, il y a cette femme qui élève sa voix et dit, « Waouh, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la garde. Encore un autre mot, ça revient beaucoup de fois. Hein. Ils viennent à Jésus, il dit, ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui, quoi, la mettent en pratique. Cela définit même la famille de Christ. Pas seulement qu'ils sont là auprès de Jésus, ils écoutent la parole de Dieu. Non, ils la mettent en pratique. Ce sont là ceux qui font partie de la famille de Christ. Donc si nous limitons la foi à simplement écouter sans agir, c'est une grande tromperie. La foi consiste à écouter, à comprendre et à agir. Un Thessalonicien même parle des œuvres de la foi, des œuvres qui sortent tout naturellement de la foi. Et vous savez, nous ne sommes pas censés jouir de la paix. On parle de connaître la paix, mais vraiment, on ne devrait pas connaître la paix si nous vivons dans la rébellion. Ça serait une fausse paix. Et d'ailleurs, la Bible dit en Jérémie, « Maudits ceux qui disent paix, paix, quand il n'y a pas de paix. » Donc on ne veut pas dire, « Dieu, donne-moi la paix à tout prix, je veux me sentir bien, n'importe ce que je fais. » Non, nous voudrions que, nous voulons, j'espère, que notre conscience nous informe si quelque chose ne va pas entre nous et le Sauveur. Nous ne voulons pas avoir la paix sans la repentance. C'est ça qu'on cherche. Et donc, si nous ne connaissons pas la paix, nous devons venir à Dieu et dire, est-ce que j'ai appliqué ta parole? Est-ce que je suis ta parole? Je me soumets à ta parole. Guide-moi pour que je garde ta loi. Et c'est en nous repentant et nous soumettant à lui que nous aurons cette paix. Vous connaissez probablement le chant en anglais, Amazing Grace. La deuxième strophe dit ceci, c'est la grâce qui m'a enseigné la crainte et la grâce a soulagé mes craintes. C'est fort. La grâce d'abord m'a enseigné la crainte. Je vivais dans la vie sans crainte, sans souci. Et puis c'est la grâce qui m'a enseigné à craindre. Et puis la grâce m'a amené vers Christ et a soulagé mes craintes. Donc ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, ça c'est la transmission. Pratiquez-le, ça c'est l'application. Et puis pour clore, et le Dieu de paix sera avec vous. Ça, c'est la bénédiction. Et là, je veux simplement dire que la bénédiction n'est pas simplement d'avoir la paix, ni même la paix de Dieu comme une commodité qu'il me donne. Hein. Tiens, voilà, quelqu'un est riche, il me donne 100 euros. Dès qu'il me donne ses 100 euros, je suis content de dire au revoir, merci. C'est pas comme ça qu'on veut la paix de Dieu. Eh, mais donne la paix, voilà, j'ai plus besoin de toi, Dieu, tu m'as donné la paix, ça va, maintenant. Non, non, on veut le Dieu de paix. On veut la paix en relation avec lui. C'est en fait Dieu que nous désirons avant tous. Et c'est pour ça que nous sommes prêts à nous repentir, à corriger ce qui ne va pas, parce que nous voulons rester en paix avec le Dieu de paix. Nous voulons une conscience pure. Nous voulons une relation ouverte avec lui. Nous ne voulons même pas connaître la paix si c'est une paix sans Dieu. On ne veut même pas aller au ciel si Dieu n'est pas là. Parce que nous désirons le Dieu de paix. Connaissez-vous ce Dieu de paix? La Bible est claire que tous le connaîtront d'une manière ou d'une autre. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ils le verront, ils le diront qu'il est Seigneur, mais pour beaucoup, ils seront son ennemi. Et Jésus leur dira, « Je ne vous ai jamais connu. » Mais d'autres connaîtront, et seront connus par ce Dieu de paix. Prions. Nous te louons, ô Dieu, que le fait que nous vivons dans un monde qui court vers la guerre, qui fait tout pour l'arrêter mais ne peut pas, qui fait tout pour connaître la paix mais ne peut pas la connaître, qui essaye de gérer tout mais qui ne peut rien gérer. Nous voyons le monde autour de nous trembler. Nous voyons des personnes autour de nous qui sont extrêmement troublées. Mais nous te louons de ce que nous pouvons venir à toi dans la prière. Et que nous pouvons avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et nous prions que chaque personne ici, même chaque jeune puisse être sûr et certain de leur relation avec Christ, qu'ils connaissent réellement le Seigneur Jésus, et que tu déverses dans leur cœur après, et seulement après cela, ta paix.
Bénis ta parole à nos cœurs, nous prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, la Bible dit aujourd'hui est le jour du salut. Ne remettez pas ces choses au lendemain. Et faites la paix aujourd'hui avec Dieu et vous connaîtrez après.